J'étais employé après la TSA. Et puis, 39, j'étais quand même envoyé à Papeete pour faire un remplacement et j'étais un petit peu malade. Il manquait beaucoup de vitamines ici. Hein. Manger du poisson, mais... Non, il n'y avait pas de viande ici. On recevait un que les parents de ma femme, quelquefois un petit morceau de bidoche. On mangeait une fois par semaine. On n'avait pas de frigidaire non plus pour garder ce qu'on avait. Hein. Il fallait tout cuire. Et puis on faisait revenir la viande pour le lendemain matin, afin de pouvoir préparer ça à la sauce. Mais le soir, on mangeait ça. Quand le bateau arrivait, on mangeait un steak. Et ce n'était pas suffisant. Alors j'ai été ramené à Papeete et voilà 1940, la deuxième guerre. Arrive le coup du 18 juin, bouleversement total. Alors, pétainiste et gaulliste.
Oui.
Oui. Mon ami Francis Sanfort était en Mangareva et moi j'étais ici. Lui, il faisait la même fonction que moi. C'est que par la suite, lorsque les gendarmes étaient partis, j'ai été obligé de remplir les fonctions d'agent spécial tout en restant directeur d'école.
Oui, bien sûr.
Et puis le trésor, puis la poste, la radio, l'état civil, et tout ça, il fallait faire.
C'était secrétaire de mairie en même temps.
Tout. Il n'y avait pas de mairie encore, on n'appelait pas ça en mairie.
En métropole, c'était ça.
Il fallait tout faire. J'étais même infirmier. Ouais, alors, vous voyez, un peu tout ça. Comme indemnité, je crois que si je touchais 500 francs, c'est bien grand.
Ouais.
Alors, à la TSF, je devais faire 200 mots. Alors, au-dessus de 200 mots, je gagnais un franc par mot. Alors, comme ici, il n'y avait pas beaucoup de communication, c'est rare que j'avais 20 francs, 30 francs par mot, par mois. D'indemnité, c'est tout. Et au trésor, j'avais que, je me rappelle plus, 100 francs d'indemnité, de responsabilité. La poste, négatif. Et puis, alors, le reste, on me payait sur ma solde d'instituteur, c'est tout. Alors, le trésor, j'en avais un paquet à faire. Et moi, j'avais appris par moi-même, mais j'étais obligé de faire la comptabilité.
Vous comptabilisez quoi exactement?
Les entrées, les sorties, les impôts et tout ça.
Oui.
Il fallait tout faire. Puisque les impôts, c'était l'agent spécial qui le faisait. J'ai tout fait ça. Alors j'allais payer les agents de mon petit, les agents ici. Je faisais tout ça.
Des journées de combien
d'heures? Oui. Et alors tout, à l'époque, mis à part les golettes, on n'avait que des contres à voile. J'emmenais quelquefois, on faisait les examens au tournoi, j'emmenais les enfants en côte à voile. C'est rare qu'on tombait sur une voilette. Alors, vous savez, les traversées, des fois, c'était beau temps, mais des fois, on est arrivé une fois à avoir du mauvais temps. Très mauvais temps. Là, au lieu de faire la traversée en 3-4 heures, on a fait toute la journée, toute la nuit, et ce n'est que le lendemain matin que nous sommes arrivés. C'était pénible, hein? Et après, alors, on a déplacé quand même les centres, on a installé le centre de Vaitape, le centre de Réalité, etc.
Oui.
C'est plus agréable quand même. Ce n'était pas du montant, ça. Enfin, je suis satisfait quand même d'avoir promu son papa, instituteur, et puis tout ça, sa maman aussi.
Et qui vous honore parce qu'ils ont des responsabilités.
Ah oui, moi, c'est aujourd'hui, maintenant, que je trouve que ces élèves reconnaissent maintenant qu'ils ont passé. D'ailleurs, Taru Oura me disait, monsieur, il n'y a pas une école encore que je trouve comme la vôtre. Vraiment, vous étiez sévère, mais c'était nécessaire. Et aujourd'hui, il dit, aujourd'hui, vous gagnez plus que votre instituteur. Alors, lui, il me dit, ça, c'est... Il me dit, non, pour eux, ils disent que c'est la meilleure école. Ils ont souffert un peu de mes punitions, mais ils acceptent.
Ils acceptent
parce que... On faisait la leçon de morale, à l'époque. Il faut respecter les maîtres, le respect envers la personne, hein. Le respect des parents, l'amour filial, etc.
Oui.
la reconnaissance, tout ça, on faisait tout ça, plus l'instruction civique. Oui. On faisait aussi l'instruction civique. Et ce n'est qu'en 45, le territoire est devenu français.
En 1945.
En 45, après le, quand De Gaulle a fait le vote, pas le vote, comment vous dites,
Le référendum.
Le référendum. Alors ça, c'est passé français.
Alors, c'est par conséquent, c'était un choix de la population.
Voilà, tout à fait. Et aujourd'hui, c'est plus la même chose. Maintenant, vous avez l'école primaire, vous avez le CEG, vous avez l'électricité avec ça, les frigos et tout.
Et l'eau.
Les enfants vont à l'école en voiture, ils ont les cantines.
On les ramasse.
Oui, on les ramasse. De notre temps, c'est à pied.
Voilà.
On pompait des kilomètres à faire. Quand j'étais à l'école à Tahiti, il fallait courir le matin. Et puis, quand vous voyez un petit bonhomme de 6-7 ans, là, il tapait 2-3 kilomètres pour aller à l'école. Aller le matin, revenir, retourner, revenir, eh bien, les enfants d'aujourd'hui, ils sont gâtés. Et pour la bouffe, on n'avait pas de cantine. Alors on revient à la maison, même pas. On revient à la maison, si c'était des mauvais temps, il y avait trop de monde, on n'avait pas de poisson. On se contentait d'un maillot avec du lait de coco. C'est tout. Le oui-oui, le farara, comme vous dites, c'est tout. Et pendant des fois, quand souffle le vent du sud, le maramou, comme on dit, eh ben, pardon, il n'y aura pas de poisson. Alors, on se contente du majoret et du lait de coco. On rentrait à l'école. Alors, des fois, on prenait des cocos, on buvait de l'eau de coco, c'est tout. Aujourd'hui, ils sont gâtés, les enfants. Très gâtés. En plus, ils ont les avantages de la télé, vidéo et tout ça, les frigos et tout.
Et comment receviez-vous les nouvelles des autres pays?
Ben moi, j'ai eu mon premier poste de radio, j'ai eu justement avant la guerre. Avant la guerre, j'ai acheté un poste de radio sur pile. Et alors les gens venaient écouter la radio. Et mon ami Alain Gerbeau venait me voir pour avoir des nouvelles aussi de France, de Paris. C'était Paris. Oui, c'était mon grand ami. J'ai même conservé encore ses lettres. Bien conservé ses lettres. Et c'est là où j'étais étonné d'Alain Gerbeau parce que il était déjà. La guerre a débuté en septembre, n'est-ce pas?
Oui.
Et bien, au mois de novembre, déjà, il me disait nous sommes foutus. Ah, ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Alors, on faisait Les Allemands étaient en Pologne, et nous étions sur la frontière, avec quelques Anglais aussi. On me dit, Monsieur Picard, nous sommes foutus. Ah, je l'ai pris pour un défaitiste. Il me dit, non, j'étais aviateur de la dernière guerre. Si nous ne pouvons pas attaquer les Allemands alors qu'ils sont occupés à l'Est, c'est parce que nous n'avons rien. Nous n'avons rien. Excusez-moi, en point de vue politique, c'était la politique du Front Populaire qui avait précédé. Rien. Effectivement, l'attaque 5 mai 1940, le 18 juin, l'appel du général de Gaulle, on était complètement foutus. Et la pagaille générale. Alors là, je me suis rappelé après de ce que Alain Gerbeau m'a dit. C'est un homme avec qui je faisais du sport ici. C'est un grand sportif.
Oui.
Alors, c'est là qu'il m'a apprécié. Parce que j'étais sportif moi-même. J'aimais beaucoup le football. C'est moi qui ai installé le football ici. Et lui, il est rentré dans mon équipe. Il était content. C'est comme ça que j'ai connu cet homme-là. Par la suite, il est parti, malheureusement. Il est mort à Timor.
Oui.
Tristement... Ce qu'il était, il était pétainiste. Hein. Enfin, on le traitait de pétainiste, mais pour lui, il m'a expliqué, vous voyez, je ne suis pas contre De Gaulle, mais je suis pour un gouvernement légal. Comme le gouvernement légal, c'était Pétain, moi, je suis français. Il faut rester dans la légalité. Ce n'empêche que j'approuve De Gaulle pour ce qu'il fait pour sauver la France. Oui. Mais
discipliné.
Pour rester français, je dois rester sous le gouvernement que le peuple a demandé. C'est un homme quand même.
Tandis que la majorité, je crois, si j'ai bien retenu, des Polynésiens ont été gaullistes.
Oui, ben, on était obligés. On était ce qu'on appelait les Free French, Français libres.
Ah, oui.
Oui, les Français libres. Alors, comme nous étions ravitaillés par l'Australie, alors on nous a dit, il vaut mieux avoir de la farine d'Australie que rien du tout. Hein. Oui. Se contente. On ne pouvait pas se contenter que de manger du hourou. Vous connaissez ce que le hourou, le majoré, ou les bananes. Il faut bien du pain pour les enfants, du lait, le Nestlé, etc. Et tout ça, ça venait d'Australie ou de Nouvelle-Zélande.
Oui, le pays le plus proche.
Ah, ben, c'était une période très difficile. Et pour moi qui étais chef de poste administratif ici, eh ben, j'ai eu du mal à tenir les gens, hein, parce que on était contingenté.
Combien d'habitants?
À l'époque, on faisait 1000 et quelques. Hein. Mais quand même, c'était pénible. La quantité de sucre qu'on nous apportait, farine, hein, il y avait tout juste. C'était très serré. Finalement, j'ai traversé là une période très dure.
Oui.
Jusqu'au moment où on a eu la victoire. Alors là, c'est ressorti la vie que vous voyez aujourd'hui.
Oui.
Ben, j'en ai encore d'autres à vous raconter, mais je pourrais pas finir.
Oh,
il y a tellement de souvenirs qui passent à travers ma tête.
Oui, oui.
Par exemple, la période américaine,
en
1942. Mm. C'était moi qui étais à la radio, toujours au Trésor, etc. Mais comme il y avait eu ici des prisonniers, des rejetés de Tahiti, parce qu'ils étaient pétainistes, alors, on a été obligé d'emmener un gendarme, un vieux gendarme. Parce que moi, je suis civil, j'ai, point de vue pénal, j'ai pas le droit de surveiller des prisonniers. Alors, on a récupéré un vieux gendarme retraité, un monsieur Allom, qui est venu ici pour avoir la surveillance de ces prisonniers-là. Et alors, on s'était donc partagé un peu le boulot. Mais j'avais encore la plus grosse partie, c'est-à-dire la partie la plus dure, le Trésor surtout, et la poste, et la radio. Et le jour où les Japonais avaient bombardé Pearl Harbor, là, on a bien dit que les Américains allaient rentrer en guerre. Et l'administrateur, enfin, le secrétaire de l'administrateur était devenu administrateur, M. Passard, était venu ici pour nous dire, voilà, écoutez, les Japonais font des grandes percées. Ils sont déjà au Salomon. Et il se peut bien qu'un jour, s'ils continuent à avancer de cette façon, ils pourraient peut-être vont se retrouver dans les parages. Alors veillez. Alors, on a mis des postes de veille. Eh bien, ça n'a pas loupé. Un bon matin, vous savez, quand on voit les bateaux, ici, on a l'habitude de crier terreau. C'était le sémaphore, ça.
Ah.
Tout le monde crie terreau, terreau. Vous ne savez pas ça?
Non.
Eh bien, oui, il faut le savoir.
Ça veut dire quoi?
Alors, ben, ça veut dire qu'il y a une voile, il y a un bateau. Alors, tous ceux qui étaient aux plantations, tout ça, descendaient tous pour aller voir le bateau. C'était à l'aube, au lever du jour. On a crié terreau. Et les veilleurs sont venus nous voir. Nous réveiller. Alors, du moins, je ne peux rien faire. Je ne suis, plus le chef de poste pour le gendarme. Alors, le gendarme, il est arrivé, il me disait, alors, monsieur Putain, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai dit, écoutez, monsieur, je n'ai pas d'ordre à vous donner. Vous êtes le chef de poste. À vous de me donner des ordres. Mais oui, mais qu'est-ce qu'on va faire? J'ai dit, ah, ça, je ne peux rien vous donner, quoi que ce soit. Hein. N'allez pas dire après que c'est parce que M. Picard m'avait conseillé ceci ou cela. Alors il prit le parti d'aller à la rencontre du bateau, parce que le bateau était devant la passe, un bateau gris. Alors, je dis ça, c'est un bateau militaire. Pas de question, quand cette couleur-là, ce n'est que les navires de guerre qui portent. Et il faisait la navette, là, entre le... Il ne rentrait pas. Alors le gendarme était parti avec l'agent de police. Quand ils ont trouvé du côté de Nounoué une pirogue avec un teuf-teuf là derrière, parti. Alors, tous ceux qui étaient venus nous avertir qu'il y avait un bateau, quand ils ont vu les gendarmes partis avec notre mouton, là, Marie, je ne sais pas si vous avez entendu, Marie Mouton, c'était pas le grand-père de Philippe Apanoui, là, son grand-père. Et alors, ils m'ont demandé, alors, Picard, qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, ben, on va hisser notre drapeau. Et si on nous bombarde, ben, nous mourrons sous le drapeau français, sous nos couleurs. Que de mourir, comment vous voulez? Ben, si c'est la guerre, c'est la guerre. On ne peut pas faire autrement. Il dit, mais attendez, je vais aller, je vais dans mon bureau quelque chose, un document. Je suis venu dans mon bureau, j'ai ouvert le. Enfin, je voudrais pas vous dire ça, parce que ce sont des secrets d'État. Hein. Alors, mais enfin, j'ai trouvé ce qu'il fallait trouver. Peut-être vous devinez qu'est-ce que c'est. Alors, j'ai dit au gars, rentrez chez vous. Ma femme même avait préparé les paquets pour partir à la montagne. Je dis, c'est pas la peine. On partirait dans la montagne. Et 3 jours après, on n'a plus rien bouffé. On serait bien obligé de revenir. Et s'il y a des Japonais sur la route, eh bien, on nous descendrait comme des mouches. Ah, je dis au gars, non, rentrez chez vous. Ah, comment? Qu'est-ce que c'est? Je dis, c'est un bateau américain. Et je pourrais même vous dire le nom. Vous partez. Ah. J'étais un peu réticent quand même, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, je vous dis que c'est un bateau américain et il n'y a pas de problème. Effectivement, à 2h de l'après-midi, le bateau est entré jusqu'au fond de la baie, il mouille. Ils ont descendu des équipes pour occuper tous les faripoupous, hein, tous les maisons de réunion. Et moi, j'étais occupé aussi par un radio opérateur. Avec des flingues, hein, tout ça, moustiquaires, tout ça, dans ma cabine où je faisais le manuel. Il dit, tiens, il veut contrôler ce que j'envoie. Or, avant qu'ils arrivent, j'avais déjà envoyé un message en tahitien. J'ai envoyé un message en tahitien au administrateur parce que je savais que eux, ils m'écoutaient. Mais avec le tahitien, ils vont pas piger. Alors, le message est arrivé là-bas, et j'ai dit, voilà, prévenez l'administrateur qu'il y a un navire ici, c'est un navire américain, appartenant à la marine de guerre. C'était un bateau hydrographe. Ouais. Alors, il venait, ou la carte du lagon, tout ça, ouais. Et qui a été rejoint après par un pétrolier. Alors, le bateau, c'était le Sumner Wallace. Et quand le radio-opérateur était parti, son second est venu, toujours pour me surveiller. Alors, un beau jour, l'équipage venait jouer à leur jeu, là, le baseball, hein, sur la place. Alors, moi, j'étais sur la véranda, et lui aussi avec moi. Alors, il me disait encore, en anglais quand même, il dit, Monsieur Picard, vous savez, les radio-opérateurs, ils sont tous des copains. Hein. Alors, je dis, ah oui. Même si vous étiez allemand, on serait certainement copains. On dit oui. Ça, c'est un corps d'esprit. Un esprit de corps dans n'importe quel corps, d'ailleurs. On dit, je vais vous dire quelque chose. Hein. Ça, c'est entre nous. Hein. Je dis, ben, si tu me dis déjà quelque chose, ça va s'en aller. On dit, voilà, nous allons occuper l'île. Au mois de février, une armada va arriver et puis nous débarquons des hommes ici. Et c'est comme ça que j'ai su que la ville de Bora Bora allait être occupée. Et effectivement, le 12 février, arrivent les croiseurs, les bateaux de poursuite et de transport et tout ça, le matériel, tout ce que vous voulez voir. Et ils ont monté des tentes partout. Au bout de quelques temps, ils ont monté des huttes. Vous voyez les huttes? Ils ont monté tout ça, ils ont installé, ils ont commencé à travaux de route et tout ça, installer leurs pièces d'anti-avion tout le long des. On voit d'ailleurs encore sur les bords de mer des endroits où il y a du ciment, des ça, c'était pour les canons anti-aériens.
Mais pourquoi ont-ils choisi l'île de Bora Bora, ils vous l'ont dit?
Eh bien, c'est facile à comprendre, il n'y a même pas besoin de nous le dire. Quand vous regardez la carte, les Japonais, ils ont fait la même bêtise que Hitler. En arrivant à Dunkerque, si les Allemands avaient la même poussée jusqu'en Angleterre,
oui,
c'était la fin. Oui. Mais heureux d'avoir gagné la victoire, ils ont préféré faire la revue à Paris,
oui,
passer sous l'Arc de Triomphe.
Oui.
Et ça a fait une perte de temps pour eux. Les Anglais ont eu le temps de sortir des avions et tout ça pour protéger Londres, quoi. Et ben, les Japonais, ils ont fait la même bêtise, à mon avis. Parce qu'ils ont tout bombardé, toute la flotte américaine qui était dans le port de Pearl Harbor. S'ils avaient débarqué, ils coinçaient la Californie. Et ils seraient descendus ici, on coinçait. Nous sommes en face de Panama. Si vous voyez, regardez la carte. Hein. Nous sommes en face de Panama et comme c'est un grand port ici, point de bateau pour mouiller,
oui.
Les deux baies, enfin nous, ils vont taper. Hein. D'ailleurs, j'ai déjà vu une fois 100 bateaux dans le port. Toutes sortes de bateaux. Hein. Tous. Ouais. Alors, ils ont monté tout ça, ils ont mis des canons à tous les points, et puis il y a les batteries Est, batteries Nord, batteries Sud, batteries Ouest, là au-dessus du club.
Oui.
On appelle ça le batterie Ouest, plus loin, deux autres, à Nau, et puis à Matira. Tout ça, c'est un peu, ça fait partie de l'histoire de Bora Bora, et toujours dans mon métier quand même, puisque j'étais quand même instituteur.
Oui.
Et ça fait une... Et ma carrière, après mon métier de chef de poste, et puis mon école encore, j'ai repris quand même mon école, j'ai pris ma retraite. J'avais 53 ans, 7 enfants, ça me donnait un an par enfant, alors ça me faisait porter à 60 ans. Et comme j'avais plus rien à atteindre, j'ai dit qu'est-ce que je vais faire? Je vais quitter. J'étais plus haut que du plafond. J'ai quitté l'école et puis ça me permettait de construire.
Et
puis...
Et vos enfants ont tous fait des études?
Comment?
Vos enfants ont tous fait des études?
Ah oui.
Oui.
Mais mes propres enfants à moi, ils ont moins réussi que les enfants des autres. Mais enfin, j'ai eu que deux garçons.
Oui.
L'aîné, qui est malheureusement mort, Frankie. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Frankie. Vous ne connaissez pas Francky? Oh ben alors, c'est pourtant il est très connu, Francky. Il est mort à Paris.
Il y a combien de temps?
Le semi. Il y a un an et demi bientôt. Un an et demi bientôt. Alors lui, il était dans la marine.
Il était jeune?
Ah oui, il a 52 ans. Le plus jeune, le dernier de mes garçons, alors je l'ai envoyé en études à Marseille, à l'université de Marseille. Pour faire de l'océanographie.
Oui.
Puisque l'océan, c'est la future,
oui,
fortune du Pacifique.
Oui.
Ça. Alors j'ai dit, tiens, je vais le lancer dans l'océanographie. Hélas, il est arrivé en 68. Cohen Bundy.
Oui.
Hein?
Oui.
Ah, quelle saleté. Et je l'ai revu encore à la télé. Hein. Pendant un an. Et je comprends pas comment on peut recevoir des gens pareils.
Et après, on dira qu'on n'est pas le pays de la liberté.
Après avoir foutu la pagaille en France. Hein.
Ouais.
Et ben pendant un an, mon fils est resté sans études.
Je Alors, sais, moi, j'avais deux enfants qui préparaient le bac. On a patienté.
Ouais.
Et après, on les a envoyés à la campagne. On les a coupés. Ils sont revenus que pour parler.
Oui.
On leur a expliqué qu'on ne pouvait pas se permettre, en tant que parents, de les faire redoubler.
Ouais.
Ils devaient passer le bac. Ils l'ont tous passé. Mais qu'est-ce que... Les parents ont eu du souci.
Ah, oui.
C'était des études qui
en l'air. Et je n'ai pas compris les Français de suivre un type comme ça.
Oh, c'était une histoire politique, monsieur.
C'était un Allemand.
Et une histoire politique.
Oui, c'est la politique.
C'est la politique,
quand même, je ne peux pas comprendre. Quand même, la mentalité française, vous savez, le français, c'est un type quand même qui a de l'amour propre.
Ouais. Ils sont partis. Vous savez ce que ça a été, 68, pour moi? Ça a été exactement ce qui s'est passé en 39, quand on a été trahi par la 5e colonne.
Oui.
Et là, ils venaient bousiller notre jeunesse.
Oui.
J'avais deux enfants qui présentaient le bac. Hein.
Oui.
C'était sérieux. Puis,
oui.
Il fallait qu'ils soient reçus. Hein. On n'arrive pas jusqu'au bac. Puis ça s'est déclenché au mois de mai, un mois avant les examens.
Ouais.
Le scolaire avait été fait. Pas d'examen.
Ouais.
C'est bien simple.
Hein. Ouais.
On a pris nos enfants, bien sûr, ils ont été aussi enrobés. Si là, leur père leur a dit, voilà, hein, je vous donne encore tant de jours. Pour nous, nous sommes vos parents. Vous devez présenter le bac. On verra vous porter les oranges en prison.
Oui.
Mais d'abord, il faut que vous ayez votre bac. Ils l'ont compris. Ils l'ont partout les deux. Il a fallu chercher une maison dans une maison, il n'y avait aucun confort.
68, ça a été mortel.
Les amis, ils ont enfermé dans ce petit village, les bouquins, le travail, et après on leur a dit, si vous voulez reprendre vos
études,
mais vous avez votre bagage, nous on a terminé, on devait vous emmener au bac.
Ouais, ben, mon fils est arrivé en 68 à l'université de Marseille, il avait fait son bac. Il a perdu un an. Alors, après la deuxième année, ils ont fait du bourrage de crâne. Eh bien, non, il a quand même réussi à la deuxième année. À la troisième année, pour faire sa licence, il se présente. À l'écrit, il passe. Mais à l'oral, il tombait sur un examinateur. Il ne pouvait pas blairer les TOM.
Ah.
Non, il ne pouvait pas blairer les TOM. Alors, il lui a posé des questions hors programme. Mon fils, quand même, a eu du culot de lui dire, mais monsieur, vous dépassez le programme. Ah ben, il faut le savoir. Il faut le savoir. Tac, il échoue à son oral. Alors, bon, il revient, je dis, bon, tu retournes à la deuxième session. Comme ça, tu décrocheras ta licence, partie écrite et partie orale. Il retombe nez à nez avec le gars. Ah, il m'a dit, je suis coulé.
Et l'autre, il n'a pas
démarré. Ça n'a pas loupé. Je ne sais pas, le type avait bien dans sa mémoire que ce gars-là, c'est, malgré son nom picard, un nom bien français.
J'ai été élevée, moi aussi, en Tunisie.
Hein?
J'ai été élevée en Tunisie, je suis née en Tunisie aussi. Ma mère a fait 25 ans.
Oui.
Et c'est certain que quand on rentre en France, on a été mal vu.
Mal vu. Oh, et ben, c'était son cas. Oui. Alors, comme il était arrivé à son an de service militaire, il est revenu, il a fait la marine. Après 11 mois de marine, il y avait un examen pour être dans l'administration. Il passe, il devient, je ne sais pas dans quel, enfin dans un bureau de l'administrateur des îles Tuamotu. Et ça ne lui a pas plu. Au bout de quelques temps, il m'a dit, non, papa, ça ne me plaît pas, parce que j'aime pas la politique. Il faut beaucoup de politique par là et ça ne me plaît pas. Alors il y avait un concours pour le trésor. Il passe, et puis il est actuellement au trésor. C'est le seul garçon qui me reste. Tandis que l'aîné, lui, il a fait de la marine, 16 ans de marine. Ces deux dernières années, il a passé au ministère de la marine dans les services d'espionnage. Et c'est comme ça qu'il a été emmené ici avec un colonel, lieutenant-colonel, à l'installation du CEP. Parce qu'il savait le tahitien.
Ah
oui. Et moi, c'est ma dernière carrière. On m'a pris pour le CEP. Parce qu'il y avait tellement de grèves, alors l'administrateur que je connaissais très bien, M. Damery, m'avait demandé d'aller là-bas pour calmer les gens. Il me dit, ah non, allez, vous avez de la poigne, et puis vous savez parler comment il faut. Je suis allé à Hao. J'ai posé mes conditions, j'ai dit à l'administrateur, d'accord, mais ne touchez pas à ma retraite. Parce que c'est pas moi qui vous demande d'aller travailler là-bas, c'est vous. Touchez pas à ma retraite. Or, attention, le CEP, c'est l'État. On me dit, non, 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 pas de problème. J'avais mon badge, et pour vous le montrer encore, j'étais attaché au cabinet de l'amiral, au rang des officiers. Alors, j'étais là-bas, je pouvais donc parler aux officiers là-bas, pour leur dire ce qu'il y avait à faire, et ce qu'il ne fallait pas faire. Je l'ai mis de l'ordre là-bas, 3 mois après, ou 4 mois après, le trésor m'envoie une fiche à remplir, déclarer vos revenus et tout ça, etc. Ah, je dis, c'est comme ça. Monsieur, au revoir. Je file chez moi. Je reviens chez moi. Je repasse à Papété pour aller toucher ma retraite. Ma soeur qui me dit, Monsieur Damery, tu veux absolument te voir. Il va venir à 4 heures. Pour que tu sois là à 4 heures. Je dis, que je n'ai plus rien à faire avec l'administration. Mais ceci, il m'a dit, m'a supplié de te dire de le recevoir. Bon, comme j'étais un copain, alors je suis resté. Et mon administrateur me dit, voilà, demain matin, il faut qu'on prenne le briguet, nous allions à Haut encore. Il y avait une de ces bagarres là-bas, de tout. Ils ont tout cassé, ils ont tout foutu en l'air. Et c'était des gens de Rayatea et de ça. Alors, je suis parti quand même. J'ai mis la paix, tout ça, et puis c'était terminé. Je rentre à Papété, Dame lui était fier, il était heureux. Terminé, il n'y a plus de PAPA. Vous savez ce que c'est les PAPA? Les bagarres. Alors, la maison du Mez, le directeur de la maison du Mez qui fonce voir l'administrateur, il me dit alors comment ça a marché? Il dit bon, il n'y a plus de problème. Ah bon? Picard a arrangé tout ça, c'est terminé. Il dit, faudra que qu'il vienne à Mururoa. Et moi, je suis parti à Mururoa après. Mururoa, Fangate, quoi. Et là aussi, il y en avait de la pagade. Qu'est-ce que vous voulez, les ouvriers tahitiens ne pouvaient pas s'accorder avec la mentalité des ouvriers français. J'avais prévenu le gouverneur, d'ailleurs, avant que je quitte. Parce que j'étais conseiller à l'Assemblée territoriale aussi. Alors, en quittant l'Assemblée, parce que je n'aimais pas beaucoup aussi la politique. Enfin, j'étais quand même dans le parti. Alors, j'ai dit au gouverneur, j'ai dit, monsieur le gouverneur, vous allez avoir des...